3. Après plus de 4 heures de route, il filait à présent sur la rocade qui contournait Boston. Un peu après Burlington, ils s'arrêtèrent dans une station-service pour faire le plein. Gaspard voulut s'atteler à la tâche, mais avec ses mains blessées, il peinait à remplir le réservoir. « Allez plutôt me chercher un café », ordonna Madeleine en lui prenant le pistolet de la pompe à essence. Il capitula et partit s'abriter du froid à l'intérieur de la station. Quelques pièces dans le distributeur, 2 lungos sans sucre. Il était presque 8 heures du soir. Dans certaines familles, le réveillon devait commencer. Les haut-parleurs continuaient à égrener le Great American Songbook, version Noël. Gaspard reconnut une version de Old Toy Trains, le classique de Roger Miller. Son père avait l'habitude de lui jouer à la guitare la version française, Petit Garçon, popularisée par Graham Allwright. Même adulte, les réminiscences de ses premiers Noëls étaient encore bien présentes. Les moments les plus joyeux étaient ceux passés dans le deux pièces de son père. 37 mètres carrés, square Paul Lafargue à Évry. Il se revoyait le 24 au soir, en train de déposer des biscuits et du thé brûlant près du sapin avant le passage du Père Noël. Il se souvenait des cadeaux avec lesquels il jouait avec son père. Big Jim, circuit TCR, arbre magique, hippoglouton. Généralement, le souvenir le faisait chialer et il le repoussait. Ce soir, pourtant, il put l'accepter sans animosité, simplement comme un beau moment dont on se souvient avec gratitude. Et ça changeait tout. « Ça caille !» se plaignit Madeleine en venant le rejoindre sur l'un des tabourets branlants qui entourait une table de bar en plastique moulé. Elle eut la velléité d'avaler son café d'un trait, mais celui-ci étant trop chaud, elle ne put faire autrement que de le recracher. « Putain, Coutances ! Mais vous voulez me tuer ou quoi ? Même un café, c'est trop compliqué pour vous ?» Madeleine Green dans toute sa splendeur. Placide, Gaspard se leva pour aller lui chercher un autre breuvage. Hors de question de se disputer avec elle et de briser le bel élan de leur enquête. En l'attendant, Madeleine consulta son téléphone. Un mail de Dominique Wu retint son attention. Cadeau, si tu es seul, pour le réveillon. Joyeux Noël. Le message laconique était accompagné d'un document volumineux. Elle cliqua pour l'ouvrir. Wu était parvenu à se procurer par la bande un relevé des mouvements bancaires d'Adriano. Autant dire une mine d'or. D'où vous vient cet air réjoui tout à coup ? Demanda Gaspard en lui tendant le café qu'il rapportait. Jetez un coup d'œil à ça, lui rétorqua-t-elle en transférant le PDF sur son mail. Les dépenses de Sotomayor. On les épluche et on en parle après. Cherchez les récurrences. Madeleine posa son nouveau gobelet sur la table à côté de son smartphone. Pendant une demi-heure, son regard ne quitta plus son téléphone. Tête baissée, elle se concentrait, faisait défiler devant ses yeux les dizaines de pages du listing, prenant des notes sur un set de table en papier. À ses côtés, Gaspard avait exactement la même attitude. On aurait dit deux accros aux machines à sous dans un casino de Las Vegas. Les dépenses couraient sur les 3 dernières années de la vie de Sotomayor. Ce type de document était comme une caméra braquée sur son existence. Il révélait ses habitudes, le restaurant dans lequel il aimait manger ses sushis au déjeuner, l'emplacement des parkings où il garait sa voiture, les péages des autoroutes qu'il empruntait, le nom des médecins qu'il fréquentait, même les petites folies qu'il lui arrivait de s'autoriser. Une paire de bottines Edward Green à 1 400 $, une écharpe Burberry en cachemire à 600 $. Gaspard finit par lever la tête, déçu. Je ne vois rien qui relie directement Adriano à Tiburton. Ni trajet régulier, ni facture d'eau ou d'électricité, ni prélèvement en provenance de magasins de la région. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Un flic comme Adriano est capable de masquer des mouvements financiers en instaurant une double comptabilité ou en réglant en liquide. Mais certaines dépenses régulières sont troublantes. 4 magasins revenaient en effet fréquemment. Home Depot et Love's Home Improvement, d'abord. Les 2 plus grandes enseignes de bricolage, de construction et d'outillage du pays. Le montant des factures était élevé, laissant présager d'importants travaux. Le genre d'aménagement, insonorisation, renouvellement de l'air, que vous pouviez être contraint de réaliser si vous vouliez séquestrer quelqu'un sur une longue période. La troisième entreprise était moins connue, et ils durent la chercher sur Internet pour découvrir son secteur d'activité. Lyophy Foods était une boîte spécialisée dans la vente en ligne de nourriture lyophilisée. Sur son site, on pouvait notamment trouver tout un tas de rations militaires ou de survie. Des packs constitués de boîtes de sardines, de barres énergétiques, de bœufs séchés et de plats lyophilisés longue conservation. L'entreprise fournissait des randonneurs ou des marins, mais également tous les citoyens, de plus en plus nombreux, persuadés que la prochaine apocalypse rendait nécessaire un stockage massif de nourriture. Enfin, les mouvements financiers montraient que Sotomayor était un client régulier du site Walgreens.com, l'une des principales chaînes de pharmacie américaine. Certes, on trouvait de tout ou presque chez Walgreens, mais notamment tous les produits de toilette nécessaires aux bébés et aux jeunes enfants. Madeleine finit son café froid et se tourna vers Gaspard. Elle voyait bien qu'il pensait la même chose qu'elle. Dans leur cœur, un fol espoir. Et dans leur tête, des images auxquelles se raccrocher. Celle de Bianca Sotomayor, une vieille dame fatiguée, prisonnière depuis des années d'une cave insonorisée. Une captive séquestrée par son propre fils, dont elle soupçonnait sûrement la mort. Une femme qui, depuis plus de 2 ans, veillait sur un enfant, se privant de tout, économisant la nourriture, l'eau, la lumière, en attendant qu'un jour, peut-être, quelqu'un vienne les délivrer. « Dépêchez-vous, Coutances. On lève l'ancre. » 4. Les derniers kilomètres furent les plus longs. La route vers Tiburton était tortueuse. Un peu avant Salem, il fallait parcourir une brève portion de l'US 1 avant de prendre une route en faux plat qui contournait une forêt, identifiée sur le GPS par le nom étrange de Black City Woods, puis de redescendre vers la côte. Gaspard regardait Madeleine à la dérobée. Elle avait complètement changé de physionomie. Son regard étincelait, ses cils papillonnaient, ses traits déterminés la faisaient ressembler à la photo que Gaspard avait vue dans l'article du NYT Magazine. Même son corps était tendu vers l'avant, comme pressé d'en découdre. Ils arrivèrent à Tiburton après 5 heures de route. Visiblement, le comté avait voté des économies sur l'éclairage public et les décorations de Noël. Les rues étaient plongées dans le noir, les bâtiments officiels n'étaient pas mis en valeur et même le port semblait éteint. L'endroit leur apparut encore plus austère que ce qu'ils avaient lu sur les guides touristiques en ligne. Tiburton était une bourgade de quelques milliers d'habitants, un ancien haut lieu de la pêche en mer qui, au fil des décennies, avait lentement périclité, pâtissant de la renommée de Gloucester, son célèbre voisin, qui s'était imposé comme la Mecque du thon rouge. Depuis, la ville éprouvait des difficultés à trouver sa place entre la pêche et le tourisme. Ils suivirent les indications du GPS et quittèrent la zone côtière pour rejoindre les lacets de bitume qui serpentaient dans les terres. Puis, ils s'enfoncèrent dans un chemin étroit, entouré de broussailles. Au bout d'un kilomètre, un panneau « For sale » apparut dans la lumière des phares. « Please contact Harbor House Real Estate » proposait l'affiche qui se terminait par un numéro de téléphone de la région. Madeleine et Gaspard sortirent de la voiture d'un même élan, laissant les feux allumés. Ils n'avaient pas d'armes, mais s'équipèrent dans le coffre de torches, de la barre de décoffrage et du pied de biche que Gaspard avait acheté à Manhattan. Il faisait toujours aussi froid. Le vent puissant en provenance de l'Atlantique leur arrivait en pleine face. Mais à Tiburton, même l'air iodé avait des relents de merde. Ils s'approchèrent de la bâtisse en avançant côte à côte. La maison familiale des Sotomayor était une petite demeure coloniale rustique à un seul étage, dominée par une cheminée centrale. Si elle avait dû être jolie très longtemps auparavant, elle était désormais sinistre. Un cottage sombre, cerné par les ronces et les herbes hautes, avec une porte encadrée de 2 colonnes qui tombaient en ruine. Ils se frayèrent difficilement un passage à travers les plantes épineuses. Dans la nuit noire, la façade en lambris de pin donnait l'impression d'avoir été repeinte avec du goudron. Ils n'eurent pas à utiliser leurs pieds de biche. la porte d'entrée était entrebâillée. Elle avait été fracturée, de longue date, à en juger par l'humidité qui avait déformé le bois. Ils braquèrent le faisceau de leurs torches et progressèrent dans la maison. Le cottage était à moitié vide, macérant dans son jus depuis des années, sans doute visité à de multiples reprises par les clodos du coin. La cuisine, semi-ouverte, avait été désossée. Son comptoir en bois avait disparu, les portes des placards étaient arrachées. Dans le salon ne restait plus qu'un canapé éventré et une table au plateau fracassé. Sur le sol, des dizaines de cadavres de bouteilles de bière, des préservatifs, des seringues. On y trouvait même des pierres placées en cercle et des cendres froides, indiquant qu'on avait allumé un feu au milieu du salon. Des squatteurs étaient venus ici pour baiser, boire et se défoncer à la lueur des flammes. Mais rien n'indiquait qu'on y avait détenu des prisonniers. Dans les autres pièces du rez-de-chaussée, il ne restait que de la poussière, l'humidité et le plancher déformé qui prenait l'eau de toutes parts. À l'arrière de la maison, une véranda donnait sur une petite terrasse abritant deux fauteuils Adirondack moisis. Madeline laissa échapper un juron en apercevant un grand garage ou un hangar à bateaux avec un toit arrière court et très pentu. Gaspard dans son sillage, elle traversa le jardin et se rua dans l'entrepôt. Lui aussi était vide. Ils revinrent vers la maison. Sous l'escalier, une porte à demi dissimulée permettait d'accéder à un autre escalier qui descendait non pas vers une cave, mais plutôt vers un grand sous-sol où ne trônait qu'une table de ping-pong recouverte de toiles d'araignée. Au fond de la pièce, une nouvelle porte qui céda après deux coups d'épaule. Le vide sanitaire de la baraque. Ça faisait visiblement des années que personne ne s'était aventuré ici. Par acquis de conscience, ils montèrent ensuite à l'étage où se trouvaient autrefois les chambres et les salles de bain. Là encore, il ne restait plus grand-chose, à l'exception de la chambre qu'avait dû occuper Adriano jusqu'à ses 8 ans. La lumière de la torche de Gaspard balaya la pièce où gisaient des souvenirs fantômes. Un matelas, des étagères renversées, des posters plastifiés qui pourrissaient sur le sol. Les mêmes que ceux qu'il avait autrefois punaisés lui-même dans sa chambre et qui avaient peuplé son imaginaire d'enfant. Les Dents de la Mer, Rocky, la Guerre des Étoiles. Seule différence entre leur panthéon, le boxeur argentin Carlos Monzon remplaçait le Michel Platini de l'AS Nancy-Lorraine. Gaspard braqua sa lampe sur le côté intérieur de la porte et distingua d'anciennes marques au crayon dessinant la traditionnelle toise qui compte tant lorsqu'on est gamin. Un frisson l'électrisa. Quelque chose ne cadrait pas. Pourquoi, alors qu'on lui avait retiré la garde de son fils, Ernesto avait-il conservé et laissé en l'état la chambre du gamin? Gaspard s'accroupit. Des cadres photos gisant sur le sol y prenaient la poussière depuis une éternité. Il frotta les vitres pour enlever la crasse. Des tirages aux couleurs fanées des années 1980 que les gosses d'aujourd'hui cherchaient à reproduire à travers les filtres d'Instagram. Des clichés d'une famille américaine. Le visage sec et fier d'Ernesto, les courbes latines de la belle Bianca, la Monica Bellucci de Tim Burton. Le visage d'Adriano devant les 5 bougies de son gâteau d'anniversaire. Sourire pour faire plaisir au photographe, mais déjà, ce regard un peu ailleurs qu'avait évoqué l'institutrice. Gaspard gratta la paroi de verre d'un autre cadre. Un 4e instantané qui le laissa pantois. Ernesto et son fils à l'âge adulte. Sans doute une photo prise lors de la cérémonie marquant l'intégration d'Adriano au NYPD. Le père y entourait fièrement le cou de son fils, sa main redescendant sur son épaule. Adriano avait donc revu son père dès l'âge de 18 ou de 20 ans, bien avant qu'il ne tombe malade. C'était incompréhensible. Ou plutôt, ça obéissait à une logique pervertie. Celle qui consistait à dire que, dès qu'il n'avait plus été capable de lui foutre une raclée, Ernesto avait cessé d'être une menace pour son fils et que celui-ci l'avait de nouveau accepté auprès de lui. Encore une fois, Gaspard et Madeline s'étonnèrent qu'Adriano ait uniquement catalysé sa haine sur sa mère. C'était injuste, choquant, vide de sens. Mais à partir d'un certain degré d'horreur et de barbarie, Le sens et la rationalité n'étaient sans doute plus des outils performants pour décrypter les comportements humains.